Merci Anne, bonjour à tous. Sur France Culture, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le gouvernement propose une prolongation de l'état d'urgence pour 2 mois supplémentaires à partir de la fin du mois de mai, donc jusqu'à la fin juillet, pour notamment couvrir la durée de l'Euro de football qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet. La politique française, Manuel Valls, lance un appel à toute la gauche pour qu'elle se mobilise au profit de François Hollande. Le Premier ministre reprend à son compte la formule du président, à savoir que le pays va mieux, même si les Français n'en ont pas forcément la perception. Les favoris des primaires américaines l'emportent nettement dans l'État de New York. Hier, Hillary Clinton l'emporte sur Bernie Sanders avec 57% des voix, désormais pratiquement irrattrapable. Donald Trump, lui, obtient près de 60% des suffrages et peut encore espérer obtenir cette fameuse majorité de délégués à la Convention républicaine. Le président américain Barack Obama retrouve en ce moment à Riyad le roi Salman d'Arabie Saoudite. Il participera ensuite à un sommet avec les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Objectif notamment, intensifier la lutte contre les djihadistes et explorer aussi une issue diplomatique en Syrie et au Yémen. L'invité du journal, l'historien François Durper, spécialiste des États-Unis. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline, pour la Grande Table.
Et vous me laissez en compagnie d'un dramaturge et metteur en scène qu'on a découvert en France récemment par 2 spectacles. By Heart, un hommage à la littérature et à la mémoire que France Culture avait enregistré pour la radio et diffusé il y a 1 an. Et Antoine et Cléopâtre, qui fut présenté à Avignon l'été dernier. Il a laissé pour quelques semaines le Théâtre National de Lisbonne, qu'il dirige depuis 1 an, pour investir, occuper, dit-il, jusqu'au 12 juin, le Théâtre de la Bastille à Paris, avec 3 créations. Le théâtre, une façon pour lui d'être au monde. Bonjour Thiago Rodriguez.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table.
Merci beaucoup.
Sans vous pendant 1 mois à Lisbonne, Thiago Rodriguez?
Elles vont continuer à travailler. C'est le Théâtre National, sont 96 personnes qui travaillent. Et normalement, quand je parle du Théâtre National, je dis toujours, moi aussi je travaille au Théâtre National, pas nécessairement, j'annonce pas, je suis le directeur artistique du Théâtre National parce que c'est une expérience très, c'est extraordinaire d'entrer dans ce bâtiment en tant que directeur artistique. Mais très vite, on s'aperçoit qu'il y a toute une équipe avec beaucoup d'expérience, avec une sagesse à propos de l'artisanat théâtral, et qu'on est plutôt au service de cette équipe que le contraire, bien sûr aussi au service du public, mais c'est un théâtre service public de théâtre, et voilà, et on est très content avec ce moment-là d'un nouveau projet à Lisbonne d'ouverture. C'était en théâtre avec une réputation de ancien, un peu renfermé sur soi-même, et c'était quand même une surprise ma nomination à la tête de ce théâtre, avec mon âge, avec mon expérience de plutôt théâtre indépendant. C'est le premier théâtre que moi je dirige de ma vie, et c'est déjà le National, qui est le plus grand théâtre du pays.
C'est l'équivalent de la Comédie Française, du Théâtre de l'Odéon, du
oui,
Théâtre de la Colline.
C'est une mélange de ces théâtres-là. C'est le théâtre ou le seul théâtre au Portugal où il y a encore un ensemble, un petit ensemble de comédiens permanents. C'est le plus grand qui a célébré maintenant 170 ans. Alors de théâtre, disons, parlé, à part le théâtre d'opéra, c'est le plus vieux du pays, le plus historique, et aussi le plus grand budget dans les bâtiments de théâtre public aussi.
4 millions d'euros.
C'est 4 millions d'euros.
Pour avoir une idée.
Dont 1 million pour programmation et le reste, parce que c'est aussi un monument national. Alors ça coûte très cher de maintenir ce monument, cette équipe. C'est tout un travail à côté de la programmation, à côté du fonctionnement artistique. historique qui est très important aussi, du monument, de archives. C'est 170 ans d'archives du théâtre portugais qu'on doit faire la manutention. Mais c'est surtout maintenant aussi un théâtre qui pense à l'avenir, au présent, et qui travaille beaucoup plus hors du bâtiment qu'avant. On travaille avec la communauté, on a ouvert vers la ville, mais aussi vers le pays, en se disant que c'est pas seulement un bâtiment, c'est une idée qui a la confiance, la tendresse de beaucoup de Portugais qui regardent le théâtre national Dona Maria II comme le synonyme de théâtre pour eux. Théâtre, c'est ça, c'est ce bâtiment-là. Alors on essaye de sortir du bâtiment, aller vers les gens dans les quartiers, mais aussi hors de la ville, dans les petites villes où il y a des gens qui paient avec ses impôts ce théâtre, ce service public de théâtre, mais n'ont pas l'opportunité d'y aller à Lisbonne, de venir du nord ou du sud ou des îles pour voir le théâtre. Alors on a créé un nouveau réseau pendant 7 ans qui commencera à fonctionner depuis septembre, un réseau de circulation des productions du Théâtre National qu'on présente dans des petits villages, dans les théâtres plus grands aussi, dans des villes, mais qu'on visite le pays hors du Théâtre National. On a aussi fait un pari très fort à l'international, par exemple avec ce partenariat très fort avec Théâtre La Bastille, qui suit mon travail, surtout Géraldine Chailloux, qui est un peu ma complice au Théâtre La Bastille depuis plus d'une décade, qui suit, pas nécessairement en présentant mon travail au Théâtre La Bastille, mais en dialoguant, en suivant le travail. Et ça, cette complicité hors du commerce, ça soutient tout à l'artistique, au culturel. Et alors, quand je suis entré au Théâtre National, il me semblait naturel d'emporter au Théâtre National mes complicités internationales aussi, et de le mettre au service du public portugais en faisant venir des artistes internationaux à Lisbonne, mais aussi en cherchant que le Théâtre National peut voyager. C'était la première fois en 170 ans que le Théâtre National était au Festival d'Avignon, par exemple, en 2015, mais d'autres exemples. Et voilà, c'est en travail à l'international qu'on trouve que c'est très important, parce qu'on ne peut pas imaginer un théâtre national dans le pays en se disant que l'influence, le travail de ce théâtre termine à la frontière avec l'Espagne ou à la mer. Ça ne peut pas être le cas dans le monde où on vit. Ensuite, on a fait un pari très fort sur enfance-jeunesse, et un pari aussi très fort sur publication, écriture, laboratoire d'écriture. C'est une des missions du Théâtre National depuis 1846, quand il était fondé par un écrivain, Almeida Garrett, dramaturge et politicien du 19e siècle progressiste portugais. On trouve qu'encore aujourd'hui, c'est très urgent de soutenir, faire des défis vers les auteurs, pas seulement les metteurs en scène, pas seulement le renouvellement esthétique de la façon dont on présente répertoire, Molière ou Shakespeare ou Racine, mais aussi le renouvellement du rapport entre le bâtiment du théâtre, le mécanisme théâtral et l'auteur, qui est parfois un peu caché, un peu mis à côté ou au service de l'esthétique du metteur en scène. Alors on programme aussi, on invite des auteurs à écrire, et après on construit autour de cette écriture, et on met un peu l'écriture au centre de la création.
Tout ça a donné en 2015 45 spectacles, dont 21 inédits de dramaturges portugais, par exemple, Tiago
Rodriguez.
Oui,
c'est une statistique qui un peu traduit cette envie de augmenter beaucoup la quantité de ce qu'on fait, en se disant que dans un moment de renouvellement, il faut trouver, il faut faire un pari dans la quantité pour trouver la qualité, parce que il faut dire que de ces 45 spectacles qu'on présente pendant cette saison, plus de moitié n'avait jamais présenté son travail au Théâtre National. Et ce sont des compagnies portugaises avec expérience ou qui commencent maintenant ou avec décades de travail, mais qui n'ont jamais arrivé à cette échelle du Théâtre National. Et c'était très fort. Ça a demandé un peu de irresponsabilité ou courage, je sais pas. Mais voilà, ça voudrait dire que une des choses que je pourrais faire avec mon âge, ma manque d'expérience en arrivant au national, c'est que ce qui était la faute la plus évidente, il sait pas quoi faire, et il a pas l'habitude de diriger un théâtre national, était aussi la chose que j'avais, mon avantage la plus forte, parce que je pourrais commettre des erreurs. Voilà, j'avais une marge d'erreur, alors je pourrais risquer. Et je me suis dit, alors je prends cet avantage de l'expérience et j'essaie de faire pendant une saison une pari très forte dans des artistes qui n'ont jamais rentré dans ce théâtre.
Mais finalement, Thiago Rodriguez, vous considérez votre rôle de directeur artistique du théâtre comme une prolongation de ce que vous faites, vous, en tant que dramaturge, acteur et metteur en scène, ce rapport au théâtre, à la fois au lieu, à l'autre, l'autre étant nous les spectateurs, ce rapport à l'urgence, vous avez employé le mot d'urgence aussi, qui est une forme d'urgence citoyenne, aussi bien l'art citoyen que la gestion d'un théâtre, c'est une seule et même chose, c'est une place dans le monde.
Oui, c'est la raison la plus forte pour laquelle j'ai accepté l'invitation d'aller au Théâtre National à Lisbonne, c'était le fait que je reconnaissais déjà dans mon travail, dans ma façon d'opérer dans le théâtre, les traits de ce que je croyais que devait être le Théâtre National. Pas nécessairement la meilleure façon, mais les ambitions, les espoirs de mon travail étaient inscrits dans la loi qui consacre la mission du Théâtre National. Et voilà, cette idée d'une sphère de travail citoyen autour de la création, c'est très important dans un théâtre national parce que c'est du service public. Alors c'est public. Si c'est public en tant que théâtre, il y a toute une pensée qu'il faut mettre en marche à propos de qu'est-ce que ça veut dire. Pas seulement la pensée autour de l'esthétique, de comment construire une programmation en notre temps qui se dirige à notre temps, mais aussi comment elle se dirige aux citoyens de notre temps dans cette ville, dans ce pays, et comment elle les écoute aussi.
Alors, et comment donner envie aux gens d'aller au théâtre plutôt que de rester devant son écran aussi.
Absolument.
Aujourd'hui.
Et ça, c'était un des grands défis pour nous, parce que évidemment, si on dit très simplement, si on regarde ce qui s'est opéré avec mon entrée au Théâtre National, c'est un peu une génération du théâtre indépendant portugais que depuis 2000 a travaillé en très forte précarité, avec une manque de soutien incroyable, qui a survécu beaucoup aussi parce que où il y avait des liens internationaux dans mon cas, où il y avait un esprit de coopération entre les compagnies mêmes et la militance de son public qui soutenait un peu, mais toujours en train de survivre et pas vivre. Et c'était quand même une génération du théâtre portugais qui a fait de la politique culturelle parce qu'il n'y avait pas des politiques culturelles. Pas seulement la manque d'argent, mais l'absence totale d'idées pour la culture. Mais quand même, il y avait depuis les années 90 des théâtres publics. Alors on pourrait occuper et dans ces théâtres publics, en contact avec ces théâtres publics, mettre en marche nos propres politiques culturelles et les discuter entre nous. Et c'était 15 ans de cette réalité qu'on a hérité. Et moi, j'ai grandi dans cette génération, avec plusieurs autres metteurs en scène, comédiens, chorégraphes, très proches la danse et le théâtre. Et à présent, il y a plusieurs théâtres ou institutions qui sont dirigés, commencent à être dirigés par des artistes qui viennent de cette génération. Ça veut dire qu'il y a une ouverture entre les institutions qui est merveilleuse au Portugal. Si je la compare par exemple en France, France est supérieure en beaucoup, 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 la plupart des choses, si on parle de la culture et du théâtre. Mais quelque chose que je manque en France, c'est l'esprit de coopération entre les institutions publiques, privées, n'importe quoi. Il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus organisé, Il y a une idée déjà dans la matrice de la démocratie française que la culture doit être soutenue et ça se met pas en cause, j'espère. Au Portugal, ça se met en cause tous les jours. Pourquoi les soutiens aux artistes? Comme si c'était un luxe. Même la gauche, parfois, le dit. Alors, c'est très dangereux.
Chez nous, on entend des discussions aussi.
Ouais, par exemple, au Portugal, il n'y a pas le concept d'intermittence. Ça n'existe même pas comme débat. C'est pas même en débat. C'est les gens ou travaillent ou travaillent pas. C'est tout. Alors, mais au théâtre national, là, le fait que j'ai rentré là, cette génération a rentré dans les institutions, mon observation était un peu le risque là, c'est quand si on essaie de renouveler esthétiquement aussi le théâtre, mais politiquement, éthiquement, on va peut-être éloigner un public fidèle du théâtre national qui a l'habitude d'y être tous les mois pour voir les spectacles et qui va être peut-être effrayé avec cette idée de changement. Et on était vraiment concernés à ça. Comment peut-on pas seulement communiquer, mais laisser habiter le théâtre en toute sa diversité, pas en parlant de diversité, mais juste en l'acceptant, parce qu'elle est déjà en place. Et on est très heureux maintenant, parce qu'on a fait un peu les statistiques, et on voit que depuis un an, on a monté en 30% notre public. Alors, il y a plus de public, on a juste rajouté du nouveau public à ceux qui étaient là déjà au théâtre, et ça, c'est un signe que dans le public aussi, dans les spectateurs de théâtre, et ceux qui ne sont pas habitués de théâtre, les spectateurs potentiels de théâtre, il y avait une envie de se reconnaître autrement en tant que citoyen et spectateur dans ce bâtiment du Théâtre National.
Dans ce bâtiment, mais aussi peut-être dans ce que vous proposez. Alors, là, vous, Thiago Rodrigues, dans cette esthétique théâtrale qui est la vôtre, vous avez pas mal travaillé avec les TGSTAN, ce collectif de théâtre dont vous vous inspirez pour une pratique du collectif déjà, pour un rapport particulier à l'écriture, à la réécriture, un théâtre d'auteur, un théâtre de texte, un théâtre d'écriture, mais réécrite sur scène, la façon dont les comédiens peuvent s'emparer sur un plateau d'un texte et le rapport aussi au public. Vous, dans cette idée de coopération, ce n'est pas seulement une coopération entre les institutions, c'est aussi peut-être un esprit coopératif avec le public qui vous regarde dans By Heart. Vous faisiez intervenir des spectateurs pour leur faire apprendre un sonnet de Shakespeare, par cœur donc. Et puis là, dans cette occupation de la Bastille, il va aussi être question de la participation du public. Et pourtant, vous êtes allergique, c'est ce que j'ai lu, allergique à une idée d'interactivité au théâtre. Donc, quelle différence faites-vous entre cette coopération avec le public et l'interaction qu'on peut voir parfois avec les spectateurs dans la salle ?
Les TGSTAN, la compagnie flamande TGSTAN, c'est mon école de théâtre. Plus qu'être inspiré par eux, j'ai quitté le conservatoire de théâtre au Portugal depuis un an parce que j'étais un mauvais élève, vraiment terrible et malheureux. Et j'ai eu la chance d'être invité par TGSTAN après un petit atelier pour travailler avec eux dans une création. Et j'ai quitté rapidement l'école pour aller travailler avec eux en Belgique et ici en France aussi. Et depuis cette première création en 97, on a fait, je sais pas, 8-10 créations jusqu'à 2012, la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, ou que j'ai travaillé avec eux. Et ce que j'ai découvert, entre beaucoup d'autres chose avec TGSTAN, c'était cette idée qu'il ne faut pas chercher un théâtre qui essaye d'être la répétition parfaite tous les jours d'un rêve qu'on a rêvé avant que le public est là, parce que s'il y a un avantage dans le théâtre, c'est le vif, c'est le fait que tout peut pas marcher cette soirée. C'est le fait qu'il y a un public différent chaque soirée, la singularité du moment théâtral, de cette nuit, de cette soirée avec vous, l'assemblée, disons, et l'assemblée avec tout son potentiel. Alors si, comme artiste de théâtre, on met tout notre effort à effacer ce potentiel, alors à essayer que tout est parfait et tout est égal tous les soirées, tout se fait comme une machine, une répétition mécanique. Il faut faire du cinéma, je pense, qui est la mémoire la plus parfaite, achevée qu'un réalisateur présente au monde de quelque chose qui s'est déjà passé. Alors moi, je suis plutôt intéressé à ce qui peut se passer, et pas nécessairement à ce qui se passe, mais ce qui pourrait avoir lieu. Où pouvait avoir lieu cette nuit.
Et ça, va donner le deuxième volet de ce triptyque à la Bastille. Ce soir ne se répétera jamais. Oui. Un spectacle qui va se faire au moment où vous allez le construire.
Oui, c'est un peu l'espoir de tout mon travail après. Que j'ai commencé à travailler avec TG Stan, c'était j'ai créé ma compagnie en 2003, 5 ans après que j'ai commencé à travailler comme comédien, et après j'ai commencé à écrire, à mettre en scène. Mais il y a toujours ce que se met en place, c'est des stratégies pour être ensemble et pour les possibilités d'être ensemble, avec des idées bien sûr, avec des décisions qu'on a prises avant, précédentes, mais ouvertes, en spectacle ouvert à la situation qu'il y a en public chaque soirée, et que ça change tout. Alors travailler avec les comédiens de cette façon, travailler avec du texte de cette façon, penser à écrire pour cette idée d'ouverture, ça m'a amené aussi à créer des projets, à développer des projets où je quitte ma place d'autorité. Comme je fais pendant les créations des spectacles, où je mets en place des possibilités surtout, et après j'essaie de gérer avec les autres en assemblée ces possibilités. Ce qui est très différent avec Occupation Bastille d'une création normale, c'est que on fait ça entre équipe artistique et équipe technique du Théâtre La Bastille et tous les travailleurs du Théâtre La Bastille, mais déjà depuis le premier jour avec 70 spectateurs. Alors on invite spectateurs à être présents du premier moment de la création. Et ça, c'est le pas le plus extrême, et je pense conséquente, par exemple, avec By Heart, où j'invite les gens à monter sur scène, mais ici, je les invite à monter sur scène ou à rentrer dans le théâtre avant qu'on sache tous ensemble ce qui va avoir lieu.
Alors ça, c'est pour Thiago Rodriguez, les deux spectacles que vous présenterez ensuite en mai et en juin au Théâtre de la Bastille. Ce soir, donc, ne se répétera jamais, et Je t'ai vu pour la première fois au Théâtre de la Bastille, qui viendra clore cette occupation du Théâtre de la Bastille. Mais le premier volet, si tant est que vous l'ayez pensé comme un triptyque, ce premier volet est très différent, parce que ce premier volet est fait d'une œuvre littéraire et théâtrale, c'est Bovary, le titre de cette œuvre. Et là, vous ne demandez aucune participation de la salle. On voit des comédiens sur scène dire un texte dont on va parler dans une minute. Mais comment avez-vous pensé ces trois créations ? Ensemble ou complètement séparément, justement ?
Bovary, c'est un peu... c'est une création dans texte que j'ai écrit en 2014 et créé au Portugal avec des comédiens portugais, et que on a rêvé ensemble, moi et le Théâtre de la Bastille, et surtout Géraldine Chailloux, à propos de qu'est-ce que ça pourrait donner en France. Et pour moi, c'était très clair que c'est un spectacle tellement connecté à la question de la langue, des nuances, des niveaux de langage, que ça devait être créé avec des comédiens français, même si j'aime bien, en tant que comédien et en tant que metteur en scène, de traduire avec les comédiens originaux les spectacles dans d'autres langues. Je joue en espagnol, en français, en anglais. Antoine et Cléopâtre, on l'a créé en portugais, mais maintenant on le présente en français et en anglais. Mais avec ce spectacle spécifiquement, je pensais il faut les comédiens français. Et ça a commencé, ça a introduit aussi dans un dialogue qu'on avait à propos des urgences partagées qui ont donné l'envie de créer cette Occupation Bastille avec Bovary dedans. L'urgence de vivre autrement la visite à une ville ou en théâtre en tant qu'artiste, l'urgence de recevoir autrement et d'inscrire autrement le travail d'un artiste ou d'un collectif dans le théâtre, de la part du théâtre, de ne pas rester juste sur la consommation culturelle, mais de vivre autrement ça. Et l'urgence qu'on pressent dans le public, qu'on pressentait, qu'on confirme maintenant dans le public, de construire un rapport plus profond avec les artistes qu'il découvre sur scène. Alors on s'est dit que pour Occupation Bastille, ça serait bien d'avoir un point de départ qui était une création, qui était une première dans le spectacle, qui pourrait après avoir des conséquences avec les autres spectacles dont on vient de parler, et le travail qu'on fait tous les jours avec ces 70 spectateurs. Et c'était Bovary. Mais moi, je crois pas que c'est pas un spectacle qui n'appelle pas à la participation du public.
Alors, pas physiquement, mais vous appelez à la réflexion du public.
Oui, bien sûr. Et c'est un spectacle qui se construit autour de la présence du public aussi. C'est une assemblée. Le départ, c'est pas le roman, mais le procès de Gustave Flaubert qui a été intenté à Gustave Flaubert en 1857 pour attentat aux morts publiques et à la religion. Et voilà. Et j'ai le point de départ pour moi, c'était plutôt cette bataille entre le discours littéraire de Flaubert et Antime, du roman, voilà, l'art, et ce combat avec le discours légal, social, politique des avocats, et de mettre ce combat en place, mais de le manipuler et de le raconter autrement avec ce point de départ historique.
Bon, Monsieur Gustave Flaubert est accusé devant vous d'avoir fait un mauvais livre et d'avoir dans ce livre outrager la morale publique et la religion. Monsieur Gustave Flaubert est auprès de moi, il affirme devant vous qu'il a fait un livre honnête. Je viens ici pour remplir un devoir de conscience, parce que j'ai lu ce livre, qui n'est pas seulement un chef-d'œuvre, c'est véritablement un livre honnête. La publication de ce livre devrait être non seulement permise, mais soutenue. Pourtant, nous courons le risque de ne jamais voir ce roman publié. Et pourquoi ? Parce que ce roman publié dans la Revue de Paris, que la majorité des lecteurs ont applaudi, a scandalisé une minorité. Et malheureusement, cette minorité s'appelle le ministère public. Monsieur Pinard, pour l'accusation, déclare que mon client a peint des tableaux immoraux. Si Gustave Flaubert a peint un tableau, c'est celui de la réalité. S'il y a de l'immoralité, ce n'est pas propre à l'auteur, mais au monde qu'il dépeint. Le seul péché de mon client, c'est d'être par trop talentueux, décrivant le monde avec une fidélité toute daguerrienne. C'est cette technologie moderne qu'on appelle photographie et qui permet de capter le monde tel qu'il est. Mon client ne peint pas, il photographie. Parce qu'il y a l'immoral et il est dans le monde, n'échappe pas à sa photographie. Mais elle inclut aussi tout ce qui est beau et moral. Ce qui vous gêne, M. Pinard, c'est peut-être le déséquilibre dans les quantités et la manière dont l'immoralité vous semble dépasser la moralité. Allez-vous plaindre au monde, M. Pinard, plaignez-vous à Dieu, au gouvernement ou à la société, plaignez-vous à vous-même, mais ne reprochez pas les maux du monde à celui qui n'a fait que les voir.
Voilà, on entendait là l'avocat de la défense, Sénard, Thiago Rodriguez. Évidemment, ces questions sont des questions à la fois atemporelles et pleinement d'actualité, et pleinement de notre temps. C'est vrai que vous nous donnez à réfléchir, vous faites vivre sur scène les différentes interprétations de l'œuvre, puisqu'il y a l'avocat de la défense, et puis il y a le procureur Pinard en face, et puis au milieu, progressivement, vous passez de la mise en scène du procès au roman lui-même, et on est plonger ou replonger dans l'œuvre, comme si vous nous proposiez une relecture ou une nouvelle interprétation de l'œuvre elle-même. De quoi est fait ce texte, Thiago Rodriguez ? De vraies lettres de Flaubert pendant son procès
Ah non, j'ai été complètement...
Vous avez tout réécrit ?
J'étais complètement irresponsable à propos des lettres, par exemple. Il y a plusieurs lettres de Flaubert, Gustave Flaubert, le personnage du spectacle. Un peu dans l'esprit des lettres de Flaubert, mais j'ai tout écrit. Parce que j'écris un peu comme un comédien. Alors, je pense pas au spectacle de hors. Quand je écris pour un personnage, je m'imagine un peu en jouant cette personnage. Alors, je me permets des libertés ou des irresponsabilités. Parce que voilà, ce petit Portugais qui écrit comme Flaubert, qui essaie d'écrire, je fais des guillemets. Vous pouvez pas les voir, mais je fais des guillemets dans l'air quand je dis comme Flaubert.
Avec les doigts.
Cette idée qu'il y a un Portugais qui peut écrire comme Flaubert, c'est un jeu de comédien. C'est toujours l'irresponsabilité du comédien qui fait semblant d'être un autre ou permet que les gens pensent à ça. Mais ce qui m'a intéressé dans ce spectacle, en plus le fait que je le fais maintenant avec les comédiens français, Jacques Bonafé, David Gesselson, Alma Palacios, Ruth Vega Fernandez et Grégoire Montséjon, ça a changé tout pour moi, parce qu'ils ont une intimité avec la langue qui est incroyable. Mais aussi, ce que j'étais très intéressé, c'est comme toujours à trouver que l'héritage des gens qui ont essayé d'opprimer la liberté d'expression artistique, par exemple, comme Ernest Pinard, l'avocat pour l'accusation à ce temps-là, nous indique aujourd'hui où est le danger, où est la liberté qu'on peut encore trouver dans la littérature, dans le théâtre, dans l'art.
Et on s'arrêtera sur ce mot de liberté en retenant l'urgence, l'occupation, l'irresponsabilité ou encore l'audace que vous avez eu à faire cette occupation Bastille, que vous continuez à faire, je le mets au présent, puisque ça vient de commencer et que ça se prolongera jusqu'au 12 juin. Merci beaucoup, Thiago Rodriguez. Toutes les dates seront évidemment sur notre site internet à la page de La Grande Table. Notez que la fiction sur France Culture vous consacre un cycle, Thiago Rodriguez, les 15, 17 et 22 mai prochains, avec une création pour la radio le 15 mai de 21h à 23h. Le 17 mai, la rediffusion de By Heart dans l'atelier fiction à 23h et la captation radiophonique de Bovary enregistrée au Théâtre de la Bastille le 22 mai de 21h à 23h. Voilà qui est dit. Dans un instant, c'est le journal et la suite de La Grande Table.